voix est libre. Au FM 93, voici Luc Lavoie.
Luc Lavoie, mes hommages.
Ah, comment allez-vous?
Ça va très bien. Tu t'es pas couché trop tard hier en regardant le débat à l'investiture démocrate?
ça se finissait pas si tard que ça, là, quand
même. Non, je sais pas, je l'ai pas regardé. Me fiais sur
ah,
toi.
Ah, ben là, t'as l'air fin, là?
Me fiais sur toi, Luc.
Tu l'as pas regardé. Ah, ouais, ben là, écoute, t'as plus besoin de regarder les débats, t'as juste à m'écouter.
Exactement. C'est ce que je fais. En plus, c'est intéressant parce que là, hier, l'agence France Presse, tout le monde titrait que c'était Elizabeth Warren qui avait gagné. Toi, t'as commencé la chronique en disant non!
C'est pas Elizabeth Warren qui a gagné. Et hier ben non, elle n'avait pas perdu non plus.
Ouais, ouais. Okay?
Mais ce que je disais, c'est qu'il en donnait plus que nécessaire.
Oui, puis t'as aussi comparé, en fait, t'as aussi cité Descartes pour dire à quel point tu trouvais que Beto O'Rourke représentait le vide absolu.
Voilà, Descartes avait tort.
Vois, j'écoute pendant les chroniques, Luc.
C'est vrai, hein, t'écoutes, hein, tu retiens. Prends des notes aussi, okay, ça va t'aider.
Tout est noté. Mais ta citation de Descartes a fait mouche parce qu'on s'en est fait parler, imagine. Ouais. Luc, là, les gens, ça les a marqués, là, Descartes, le vide. comme quoi la radio intelligente, ça pogne, Luc.
Troisième lien ou pas, tu sais.
Bon.
Ah boy. Le débat d'hier soir. Ben d'abord, faut, tu sais, c'est le deuxième. Il y en a eu deux débats, 2 x 10, 20 candidats. Hier, c'était, on sortait les vedettes, là. Joe Biden, qui est en tête dans les sondages. Bernie Sanders était là. Et puis Kamala Harris, j'y reviens à elle, parce que d'après moi, c'est la grande gagnante d'hier. Et aussi le candidat coqueluche d'une certaine frange de l'électorat américain, Pete. Et là, je te le dis, ça fait à peu près 2 mois que j'essaie de comment apprendre à le prononcer.
J'ai hâte.
Buttigieg.
Ah, OK.
Buttigieg.
Ça doit être ça.
Je pense.
Ça doit être ça.
Je pense. Alors, résultat des courses. Premièrement, parlons de Joe Biden. Écoute, je veux pas vraiment faire dans l'âgisme puis tout ça, là, mais soudainement, il y a 76 ans, ça va, il paraît bien. Mais ça faisait longtemps... Je veux dire, il était le vice-président de Barack Obama. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu devant un grand auditoire national comme ça. Le gars a pris un coup de vieux. Il y avait des gens avec moi hier. Ils ont eu tous la même réaction.
Ah ouais?
Il a pris un coup de vieux. Physiquement, on voit qu'il est très... Il a de plus en plus le visage d'un vieillard. Et je pense que dans son élocution aussi, il n'y a plus ce côté très, très sharp. Mm-hmm. Il n'est plus là. Il a vraiment de l'air d'un gars. Il avait de l'air hier... Et c'est lui le grand perdant, pas tant par ses propos que par justement... Parce que faut se dire que dans ces débats-là, les propos eux-mêmes sont rarement décortiqués. C'est un ensemble de facteurs qui fait qu'il se crée ou qu'il ne se crée pas d'empathie avec l'auditoire. Hier, Joe Biden, on se sentait pas bien pour lui. On était « Oups, oh boy, on avait oublié comment il en a pris un coup de vieux ». L'autre cas, c'est Bernie Sanders. Tu vois, Bernie Sanders, quand il s'est présenté contre Hillary Clinton pour l'investiture démocrate en 2015-2016, il avait 73 ans, puis il y avait des commentateurs qui disaient il y a 73, mais on dirait qu'il y a 85, mais pas dans son élocution. Mm-hmm. C'est un gars qui a le dos un peu voûté, c'est un gars qui est vraiment tout blanc, comme moi d'ailleurs, il est vraiment tout blanc. Alors lui, hier, on l'a vu aussi un peu vieilli, mais pas du tout sur le plan de l'élocution. Il y avait là, le même ton, le même punch. C'était un formidable orateur. Là. C'était un formidable debater, ce gars-là, là, Bernie Sanders. Mais la grande découverte, puis t'as ce beat Pete Buttigieg, là, le maire d'une petite ville de l'Indiana... qui ont les titres de gloire, ça, c'est d'avoir servi comme officier dans le corps des Marines en Irak. Il y a même pas 40 ans, il est allé se faire élire, puis il parle 4-5 langues, puis il joue du piano. Tu sais, je sais pas s'il joue du banjo, ça, ils nous l'ont pas dit, mais piano.
C'est comme l'inverse de Beto O'Rourke, finalement.
Il y a du contenu.
Ouais, c'est ça.
Alors, mais c'est un gars qui est ouvertement gay, et juste après son élection comme maire dans cette ville-là de l'Indiana, il s'est marié formellement à l'hôtel de ville. Alors, évidemment que la communauté gay des États-Unis, qui est très importante et qui est très influente aussi, c'est la coqueluche, et aussi d'une certaine gauche. Ben, hier, il a raté son coup, lui. Lui, là, un de ses problèmes, et c'est ça qui est la télévision, c'est ça le showbiz, c'est ça qui est devenu la politique. T'as à côté de toi Joe Biden, c'était son cas, il était placé sur un lutrin à côté de Joe Biden. Joe Biden, c'était un gars de 6 pieds 2, à peu près. Puis Buttigieg, là, il fait à peu près 5 pieds 6. Alors, soudainement, là, c'est comme quand on te parle, on te regarde en baissant les yeux comme ça. Ça aide pas.
Mais il peut
ça
pas faire grand-chose, à part se mettre un bottin de téléphone.
Il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire, mais c'est ça la réalité, ouais, tu comprends? Quand, dans un débat où ils sont debout, ça sert pas bien ben son avantage. Maintenant, parlons des choses positives. La sénatrice de Californie, Kamala Harris, on sait depuis qu'elle s'est lancée dans la course qu'elle a clairement du talent. C'est une ancienne procureure de la couronne, procureure de la poursuite en Californie. Mais enfin, procureure générale même de la Californie, dans l'État de Californie. Elle est maintenant sénatrice. Écoute, moi-même, j'ai été pas mal impressionné.
Ah oui?
Évidemment, ils se positionnent pas mal tous vers gauche, centre-gauche, tout ça. Mais elle, elle a un sens du punch, le comprends-tu? Okay. Elle a aussi... Un langage corporel extrêmement télégénique. T'sais, vraiment, là, tu sens, et elle s'exprime avec une précision, et c'est elle qui a pas eu peur de pousser un et pousser l'autre. Vraiment, là, Kamala Harris, là, c'est elle qui sort grande gagnante jusqu'à maintenant.
On a un extrait de Kamala Harris lors du débat d'hier, d'ailleurs.
Hey guys, you know what? America does not want to witness a food fight. They want to know how we're going to put food on their table.
Wow! Quel punch!
Ouais, c'était un joyeux punch. Hein.
C'est pour la traduction, là, juste pour...
Pour la traduction, les Américains n'ont pas envie de nous voir se tirer de la nourriture d'en face. Ils ont envie de voir comment on peut en mettre sur leur table.
Que c'est bon.
Ça, c'est bon.
Non, c'est...
Ouais, vraiment.
Et là, le gars de relations publiques, Luc, quand il entend ça, il se lève-tu de son divan, puis il se met à applaudir, puis il crie...
Ah, non, parce que le gars de relations publiques, il regarde ça quasiment... Moi, pis c'est vrai, là, je te le dis, ça a été tellement longtemps mon métier... Je regarde ça comme... Ça faisait bien rire ma blonde hier. Je regarde ça comme un match de boxe ou quelque chose. Pour moi, c'est technique. Hop!
Ouais.
Regarde, hop! Ça, c'est la ligne qui a été préparée. Oups! Là, il glisse de sa ligne. Il glisse. Il va-tu se rattraper? Oups!
Ça, cette ligne-là, les Américains veulent pas voir un food fight. Ils veulent avoir la nourriture sur leur table. C'est écrit, ça.
Ben oui.
Ça, c'est écrit.
Clair. Puis elle l'avait dans sa poche d'en arrière. Puis elle attendait le moment pour la lancer. Ouais. Là, puis elle est venue. Puis bang!
Puis alors, ça, c'est...
Oui.
Dis-moi si ma lecture a du bon sens sur Kamala Harris un petit peu, parce que quand je vois un Joe Biden qui est encore favori, puis une Kamala Harris, je vois vraiment deux antipodes. T'sais, Harris, c'est un père jamaïcain, je pense, une mère indienne, c'est une femme aussi, elle représente un petit peu une antithèse à présenter à un Donald Trump. Il me semble que pour les démocrates, il y aurait tout à gagner à avoir une candidate aussi différente de Donald Trump pour essayer de gagner des appuis auprès notamment des minorités culturelles.
Écoute, moi, je te suis là-dessus, Jean-Simon, parce que Trump, là, il dit n'importe quoi, mais c'est clair. Donc, c'est dur à comprendre. Là.
Mais il n'y a pas de place à l'hésitation.
Non. Alors, elle est capable là-dessus, Jean-Simon, tu as complètement raison. Elle, je la vois très bien dans un débat contre Trump. Ouais. Trump aurait pas mal de difficultés. Parce que d'abord, elle est vite, là, tu le sens, là, paf, là, si ça revient à toute vitesse. Elle est frondeuse, elle est, à mon avis, audacieuse. En tout cas, sa première sortie en grand, celle-là, ben, je l'avais vue en entrevue avant, tout ça, je la trouvais bonne. Vraiment, là, hier, j'avais un choix à faire, moi, c'est Kamala Harris que je trouve qui est la plus intéressante de la gang.
Pour le débat d'hier, hier, je t'ai demandé de mettre ton vieux 2. Tu m'as dit, il va falloir attendre le débat, le deuxième débat. Es-tu prêt à mettre ton vieux 2 à ce moment-ci?
Sur un gagnant? Ultimement?
Ouais, mettons.
Sur un candidat? Non, parce que je pense qu'il va se passer d'autres choses dans ça. Je suis pas capable d'expliquer quoi, c'est encore le gars, là, qui
le Messie n'est pas encore arrivé.
Je pense que non. Ou il y a quelque chose qui... Il manque encore un élément pour qu'on soit capable de sentir par où ça s'en va. À l'heure actuelle, ça va pas mal très, très à gauche. Il y a tout un discours très, très à gauche, tellement plus à gauche que ce qu'on a vu historiquement aux États-Unis, même chez les démocrates. Il y a ça. Mais disons que sans mettre un vieux 2, Paul Raphaël, Je dirais qu'à l'heure actuelle, Kamala Harris, c'est celle qui est la plus intéressante.
OK, on va aller faire un petit tour au Japon, Luc, avant de te laisser filer, parce qu'il y a le G20, évidemment, qui se tient là depuis, depuis hier. Discussion entre Trudeau et Xi Jinping. Est-ce que tu penses que ça peut faire avancer le conflit entre le Canada et la Chine, ou c'est plutôt protocolaire?
Qu'est-ce que tu entends par discussion? Ils se sont dit des mondanités.
Des beaux bonjours.
Oui, mais ils sont assis un côté de l'autre, pas à cause de l'ordre alphabétique. Ils sont un à côté de l'autre. Mais passerais-tu le lait? Non, mets-tu du lait dans ton thé? Ah, du lait dans le thé, faut que t'es pas un Britannique. Hein? Du saké? Ben non, je suis pas japonais, je suis chinois, baptême.
Mais de ce que tu vois au G20, il y a des rencontres. Comment ils appellent ça déjà?
C'est comme ça? Parce que ça me fait penser. Je peux-tu, vu que c'est l'été, puis c'est ma dernière.
Vas-y.
À la grande époque où les élections au Québec, c'était le fun. Et ça, c'est Monsieur Mulroney qui la raconte et qui nous fait rire avec ça. Et dans le temps, il y avait ce qu'on appelait les télégraphes. Tu sais, les bureaux de scrutin fermés à 8 heures. Ouais. Puis à partir de 6h30, dans un bureau qui était discret et confidentiel, il y avait des gens qui venaient voir, ils disaient, OK, on a fait le tour, là, un tel a pas voté, il votera pas, un bon. Puis là, ils envoyaient le monde voter à leur place parce que t'étais pas obligé de présenter une carte d'identité. Alors, et la façon que ça fonctionnait, c'est qu'ils prenaient un crayon, puis ils écrivaient dans leur main, direct sur la peau. Alors, moi, c'est le pôle 34, puis mon nom, c'est Gérard Saint-Amand, puis voilà. OK? Puis là, ils s'en vont là, puis ils se présentaient devant le scrutateur, puis regardaient, moi, je m'appelle Gérard Saint-Amand, oui, monsieur, allez voter, bon. Alors, à un moment donné, il y en a un, qui va faire sa job, puis c'est un gros taupe, un gars dans le milieu syndical, un tough. Lui, il donne son nom, c'est Ji Zongpin. Ah ouais? OK? OK, il écrit ça, lui, puis il écrit son numéro de pôle, il se présente, puis le scrutateur le regarde, c'est le taupin, un de souche québécois.
Pas là, plus québécois que ça, là, tu sais.
Un gars de Rimouski, là, tu sais.
Ah oui. Blanc Paul.
Alors, il dit, votre nom? Ji Jinping. Il dit, ah ouais? Il y avait une question qu'à l'époque, la loi permettait de demander pour vérifier. C'est votre profession. OK? Fait que, profession. Il regarde dans sa main. Il a oublié de l'écrire. Il regarde une deuxième fois. L'autre, il dit, ben, votre profession? Ben, il dit, moi, je suis chinois.
C'est pas arrivé pour vrai, ça.
Oui, c'est pas. Enfin, je sais pas. C'est une des histoires que M. Mulroney aime raconter.
Ah, c'est bon.
Qui est un des hommes les plus drôles que j'ai jamais connus, d'ailleurs, M. Mulroney.
C'est fort.
Mais moi, une profession chinoise.
Je dirais
chinois. Ben, j'avais fait mieux que ça dans le temps. Ben, pas je me souviens, mes tout débuts de la radio, ça devait être Matane, je pense, on a fait de même. Et puis, dans ce temps-là, les listes électorales, ils clouaient ça sur un poteau de téléphone. Vous êtes trop jeune, vous vous souvenez de ça. Mais
ben, nous autres, même le téléphone, ça. On n'est pas sûr de savoir c'est quoi. Là,
que... Ouais! Alors, vraiment, là, t'avais une liste qui était sur un... Puis, chaque pôle, là, ton pôle, il y avait... Puis t'allais voir si ton nom était là, puis si t'étais pas... T'avais une démarche que tu pouvais faire.
Ouais.
Il y avait profession. Alors, nous autres... On était trois qui vivions ensemble, tu sais, dans nos débuts de la radio, à l'époque folle où il y a plein de choses que je vais démentir si elles me sont amenées au visage. Mais quoi qu'il en soit, nous autres, il fallait qu'on s'inscrive sur la liste. Alors, on regarde ça. Puis, il y en avait un qui avait marqué, sa profession, tireur de joint. C'était vrai! Il était tireur de joint dans la construction. Nous autres, on a décidé que c'était merveilleux. On était tous tireurs de joint, toute la gang. On s'est tous inscrits comme tireurs de joint.
Chacun sa sorte de joint. Il y en a
qui sont quel genre de joint, mais c'était.
Nous autres, c'est des joints de salon, mais regarde. Hey, Luc, c'est la dernière de l'été?
Oui.
C'est des beaux projets de vacances, c'est bien le fun, ça.
Oui, effectivement, je vous le confie. Je pars dimanche pour 2 semaines en Israël. Un rêve de jeunesse que j'ai toujours voulu voir, la Terre Sainte et Jérusalem, et sans aucun doute, la ville matrice de notre civilisation. Mmh, c'est probablement la ville la plus importante de l'histoire. C'est à partir de là que tout est arrivé, que tout continue d'arriver. Cette ville-là a plus de 2500 ans et elle n'a jamais cessé d'être active et habitée. C'est pas comme une autre ville qui s'est rebâtie sur des ruines d'autrefois. C'est une ville qui n'a jamais cessé de vivre. C'est la place de tous les conflits, mais c'est aussi la place de tous les rêves du monde.
Ben oui.
Alors, je vais y passer 2 semaines. Je vais aller découvrir tout, parce que je me suis toujours passionné sur le plan littéraire pour toute la littérature de cette région du monde et toute l'histoire de ce qui se passe là-bas. Je vais aller le vivre sur place.
Conseil voyage, si jamais il y a quelqu'un qui veut te vendre une garnotte qui prétend être un fragment de la roche qu'il y avait devant la tombe de Jésus, dis non, c'est pas vrai.
Mais, oh non!
Non!
Oh là, tu me fais de la peine!
Ah, je m'excuse, là, je sais que t'allais aussi là, malgré la littérature et la ville de
Jérusalem. J'ai ma fille qui me dit, tu voulais ta garnotte. Faut que tu me ramènes une pierre de Jérusalem. J'ai dit, penses-tu, il y a à peu près 3 millions de touristes par année qui vont là. S'il fallait que chacun se ramasse une pierre, il n'y aura plus de ville, ça sera pas bien long. Là. Ça n'a pas bien de bon sens. Là.
Hey, merci, alors, merci Luc pour ta précieuse collaboration. Merci. Amuse-toi bien.
C'est vraiment un plaisir. De
belles vacances, puis ramène-nous bien des belles histoires.
Salut les boys.
Salut, OK, Luc. Salut, bye. Luc Lavoie, bye-bye.
Bye-bye.